Bonjour, ravi de vous retrouver dans Grand Bien vous fasse. Bonjour Marie-Laure Sonshine.
Bonjour Ali.
Chef des actualités de Femmes Actuelles, vous m'avez beaucoup manqué.
Quoi
de neuf en fin d'émission dans la rubrique Les choses de la vie?
On va parler de la générosité au boulot, ou comment être salarié, solidaire, bénévole, sous l'œil intéressé de l'entreprise.
A tout à l'heure Marie-Laure Sonshine. Avez-vous l'impression que dans votre entourage, personne ne s'émerveille comme vous à la vue de scènes de la vie quotidienne qui vous enchantent par leur beauté insolite? Craignez-vous de passer pour un naïf ou un idiot, ému comme un enfant face à ces petits rien du tout? Vous arrive-t-il de penser que vous n'avez pas changé depuis l'adolescence, que votre personnalité, vos goûts ont résisté au passage des années? Possédez-vous des collections? Ou encore désirez-vous tout et son contraire? Si vous répondez oui à ce questionnaire sans prétention scientifique concocté par l'un de nos invités, il y a de fortes chances que sommeille en vous un grand enfant. Et ce matin, nous nous intéressons à ces adultes qui ne grandiront jamais comme Peter Pan. Je vous propose ce matin donc de dresser leur portrait robot. Quelles sont leurs motivations? Doivent-ils obligatoirement entrer de plein pied dans la maturité? Que nous disent ces grands enfants de notre société? Éléments de réponse avec nos invités. Et vous, dites-nous si vous avez du mal à grandir par courriel grandbienvousfasse@radiofrance.com, sur notre page Facebook et au standard de France Inter. Ulysse et Josué attendent vos coups de fil au 01 45 24 7000. Et puis dans un instant, vous retrouvez l'éternel jeune homme, notre psychiatre maison préférée, Christophe André.
France Inter. Grand bien vous fasse. Ali Rébéi.
Je suis si heureuse que tu sois revenue ce soir. J'aurais pu ne jamais te rencontrer.
Pourquoi?
Parce que je dois commencer à grandir demain.
À grandir?
C'est ma dernière nuit dans la chambre d'enfant.
Mais ça veut dire qu'il n'y aura plus d'histoire? Non, non, je ne veux pas. Suis-moi.
Mais, où est-ce qu'on va?
Au pays imaginaire.
Au pays imaginaire?
Le pays où on ne grandit jamais.
Oh, Peter, ça serait vraiment merveilleux.
Un extrait de Peter Pan de Walt Disney adapté de l'œuvre de l'Écossais James Matthew Barry. Et pour évoquer ces adultes qui restent de grands enfants et qui ressemblent beaucoup à Peter Pan, deux invités. Bonjour Rémi Houdguéry.
Bonjour.
Vous êtes diplômé d'HEC de Sciences Po, sociologue, directeur général adjoint de Sociovision. Et vous avez publié chez Arke, Ces adultes qui ne grandiront jamais, petite sociologie des grands enfants. Bonjour Sarah Chiche.
Bonjour Ali.
Vous êtes psychanalyste, psychologue clinicienne. Dernier ouvrage paru, Éloge du Mikado au PUF. Et vous êtes l'une des experts éclairés de notre émission. Bonjour Julien Bisson.
Bonjour Ali.
Directeur du magazine Lire, vous évoquerez dans quelques instants quelques personnages qui inspirent ceux qui ne veulent pas grandir. Rémi Houdguéry, votre ouvrage s'ouvre sur une citation de John Fiske, « Tout le progrès de l'homme est peut-être dû au fait qu'il reste longtemps dans l'enfance ».
Oui, c'est probable. En tout cas, c'est ce que j'essaye de montrer dans ce livre, que rester enfant le plus longtemps possible, c'est rester créatif le plus longtemps possible, c'est rester ouvert à une part d'émerveillement que le monde, très souvent, ne nous offre pas. Et ce que moi, j'appelle dans ce livre les grands enfants, c'est ceux qui continuent à s'émerveiller au-delà de l'âge requis ou traditionnel.
Sarah Chiche.
Oui, je suis tout à fait d'accord. Tout à l'heure, dans l'émission d'Augustin Trapenard, Patrice Lecomte a dit « La vérité, je la trouve dans mon imagination ». Et je suis tout à fait d'accord avec ça. Ce qui est bon dans le fait de pouvoir rester en enfance, c'est quand on comprend que mûrir, ça ne veut pas nécessairement dire mourir et qu'on conserve sa capacité de rêverie et sa liberté de création.
Rémi Houdguéry, qu'est-ce qui a motivé l'écriture de ce livre? Vous êtes vous-même un grand enfant?
Je pense qu'on est tous un peu des grands enfants. Je pense que, alors, moi je fais au jour le jour des enquêtes sur l'évolution des sociétés et me frappe depuis des années, ça s'accélère, cette incapacité que nous avons à nous projeter dans le futur et à devenir de vrais adultes. Donc, il y a une crise de l'âge adulte aujourd'hui dans nos sociétés qui se caractérise par le fait que soit on essaye de prolonger le plus longtemps possible le moment de l'enfance ou de l'adolescence, soit on essaye de garder un esprit enfantin, un peu puéril tout au long de sa vie. Et ça m'a paru être un sujet qui en disait long si on s'y intéressait de près sur l'évolution des 40-50 dernières années.
Sarah Chiche.
Oui, c'est très frappant. Je le vois en consultation. Effectivement, des gens qui ont tellement idéalisé dans l'enfance ce qu'allait être leur vie plus tard que quand ils se retrouvent confrontés à la chute de leurs idéaux, ils ne veulent pas s'engager. Ça va être notamment, j'avais une telle idée de l'amour que du coup, je ne veux pas m'engager dans les relations amoureuses parce que je croyais que c'était comme un Walt Disney. Ou plus tard, je rêvais d'être prix Nobel ou chef d'orchestre. Je vois que je ne peux pas l'être. Donc, du coup, je n'arrive pas à trouver du boulot.
Oui, je pense que c'est lié aussi au fait fait que dans nos sociétés, le changement est très valorisé. Aujourd'hui, il faut être tout le temps en posture de changement, d'abord parce que le monde change très vite, mais aussi parce que si on veut suivre le mouvement, il faut être soi-même changeant. Or, changer en permanence, c'est typiquement la figure de l'adolescent qui est à l'âge des possibles, qui reste ouvert à tous les possibles. Et en fait, une des valeurs dominantes de notre société, c'est de dire restez toujours dans cet âge des possibles. Pourquoi ? Parce que le monde va changer et que si vous vous fixez dans un rôle particulier, si vous vous immobilisez dans une posture très précise, bah vous ne suivrez pas le mouvement. C'est aussi ça la crise de l'âge adulte, c'est la crise de nos sociétés. On est pris dans un mouvement permanent.
Sarah Chiche, d'un point de vue psychanalytique, il est bon de rester en enfance, en adolescence. Il est bon d'y rester coincé ou pas ?
Y rester coincé, y rester fixé, certainement pas. C'est-à-dire que quand ça prend tout l'espace psychique, à ce moment-là, quand un individu va se retrancher entièrement dans un monde imaginaire et se désengager complètement de sa vie réelle, à ce moment-là, c'est là que la souffrance advient. Ça peut arriver, d'ailleurs, ces fixations à l'enfance, ça arrive souvent à l'adolescence, c'est-à-dire au moment où on se rend compte que la vie, c'est pas un Walt Disney, c'est pas un conte de fées. Et à ce moment-là, il y a des gens qui, pour éviter ce deuil, pour éviter cette souffrance, vont se retrancher dans leur monde imaginaire.
Rimoud Guiri, la frontière entre enfance, adolescence et maturité semble plus poreuse que jamais.
Oui, je pense qu'on ne sait plus trop à quel moment on devient adulte. En réalité, l'idéal de notre société, c'est justement de ne jamais se fixer définitivement dans le statut d'adulte. Un de vos invités, Roger Paul Droit, a dit il faut avoir une jambe dans la jeunesse, une jambe dans l'enfance et une jambe dans la maturité. Je pense que c'est ça l'idéal qu'on essaye de promouvoir aujourd'hui. Il y a un autre philosophe, Pierre-Henri Tavoyot, qui a parlé de maturescence. Et je trouve que c'est très juste. C'est-à-dire qu'avant, il y avait la maturité. On passait par l'enfance, l'adolescence, puis on devenait une personne mûre et adulte. Aujourd'hui, on ne devient jamais vraiment mûr, on est en voie de mûrir. Donc on est en adolescence perpétuelle, en maturescence perpétuelle, et donc on va vers un idéal de la maturité. Le problème, c'est évidemment à quel moment on se fixe et comment on fait par rapport aux enfants.
Sarah Chiche.
Et puis je crois que, bon, on l'a vu encore très, très dernièrement dans l'actualité, la violence de ce que l'on vit au quotidien ne nous aide pas.
Hein ? Et puis dans une société qui accélère, qui va trop vite, les grands-enfants détiennent le pouvoir d'arrêter le temps, Rémi Houdguiri.
Ah, ils ne détiennent peut-être pas le pouvoir, mais en tout cas, ils veulent arrêter le temps. C'est le grand fantasme, en fait, derrière tout ça. C'est rester en enfance, c'est arrêter le temps à un moment donné. Et c'est un fantasme, je pense, qui est assez éternel, en réalité, parce qu'on le trouve dans l'histoire de la littérature, par exemple. Mais il est plus que jamais dominant dans nos sociétés depuis une trentaine d'années.
D'ailleurs, Peter Pan, le grand enfant, il n'a pas d'ombre. C'est Wendy qui lui recoue son ombre. Il n'a pas d'ombre, donc il n'a pas de passé. Il est dans une sorte de présent perpétuel, le présent de l'enfance.
Et on évoquera Peter Pan tout à l'heure. Nous attendons toutes vos questions et témoignages. Grand bien vous fasse à radiofrance.com, 01 45 24 7000. En attendant, il est temps de retrouver les choses vues de notre psychiatre préféré, Christophe André.
Je suis votre thérapeute.
Choses vues.
La blouse blanche, bon, ça fait médical.
Grand bien vous fasse.
Bonjour Christophe André.
Bonjour Ali.
Que vous inspire notre sujet du jour ?
Il m'inspire une question. À partir de quel âge commence-t-on à ne plus vouloir grandir ? Puisque quand on est petit, on a vraiment envie de grandir. Les petites filles, les petits garçons rêvent tous de pouvoir faire comme les grands. Se coucher quand ils le veulent, faire du vélo sans les petites roulettes, conduire la voiture comme papa et maman, n'avoir personne qui vous dise de manger ses épinards, d'aller se brosser les dents et tout ça. Et puis un jour ça arrive, on est adulte, majeur, on peut faire plein de choses sans demander l'autorisation. Mais avec la liberté arrive aussi le loyer de la liberté, les responsabilités, les soucis, les contraintes, les obligations. La légèreté de l'enfance nous est confisquée par la vie d'adulte. On passe de l'insouciance à la souciance. Et est-ce que c'est vraiment si bien que ça d'être un grand ? Pour beaucoup d'entre nous, c'est un passage obligé par la nostalgie et la mélancolie d'une jeunesse que l'on voit foutre le camp.
Ma jeunesse fout le camp sur un air de guitare. Elle sort de moi-même en silence à pas lents. Ma jeunesse fout le camp, elle a rompu la mare. Elle a dans ses cheveux les fleurs de mes 20 ans.
Et là, tout le monde pleure en studio et en régie.
Oui, oui, et vous aussi, Ali, d'ailleurs, j'ai vu, et d'ailleurs, mais ne pleurez pas, j'ai vu quelques fleurs de vos 20 ans dans vos cheveux, alors tout va bien. En tout cas, voilà effectivement qui ne donne pas envie de grandir. Alors on fait quoi? Eh bien, ce qui est merveilleux avec la vie humaine, c'est que nous avons alors plein d'options existentielles. La plupart d'entre nous acceptons bon gré, mal gré de grandir, d'abord parce que nous n'avons guère le choix, et ensuite parce que le fait de grandir est la seule réponse possible au fait de vieillir. Grandir, quand on est adulte... Ça ne se passe plus dans le corps, mais dans la tête. On grandit en intelligence de la vie, c'est-à-dire qu'on s'efforce d'aller vers plus de sagesse, plus de bonheur, plus de générosité. C'est ce que disait très bien le philosophe Gustave Thibon. Aujourd'hui, ton corps est plus vrai que ton âme. Demain, ton âme sera plus vraie que ton corps. C'est ça, devenir adulte. Notre corps décline, mais notre âme grandit. Pourtant, certaines personnes n'ont pas du tout envie de voir décliner et vieillir leur corps. Et il leur semble qu'en refusant de toute leur force de grandir, en s'occupant de rester jeunes, elles vont freiner le passage du temps. Elles continuent de s'habiller, de parler, de se comporter comme des jeunes. Elles continuent d'essayer de penser comme des jeunes. Et elles sont à la fois ridicules et émouvantes, à la fois peureuses et courageuses. Courageuses, oui, parce qu'en voulant à tout prix faire jeune, elles apparaissent quand même ainsi deux fois plus vieilles et qu'elles le sentent bien. Mais émouvantes parce que finalement, leurs inquiétudes face au passage du temps sont exactement les nôtres. Et vous, au fait, mon petit Ali, vous sentez parfois que votre jeunesse fout le camp?
Quand je me mets à courir, là, depuis quelques temps, je sens qu'elle a bien foutu le camp, ma jeunesse. Petit commentaire autour de la table, Rémi Houdguiry, Sarah Chiche.
Oui, rester jeune, c'est un des grands fantasmes de notre époque. Le film de Guillaume Canet récemment, Rock'n'Roll, montrait un quadragénaire qui est obsédé à l'idée de vieillir. Et en fait, c'est le récit d'une dérive, il se bodybuild, il devient complètement transformé par la chirurgie esthétique. C'est le travers de quelqu'un qui n'arrive pas à grandir.
Julien Bisson, c'est pas une idée neuve, c'est de cette peur de vieillir, Portrait de Dorian Gray, Le pacte avec Faust.
Bien sûr, c'est en effet un thème, vous le disiez, un thème très récurrent dans l'histoire de la littérature. On essaye de se fixer dans une jeunesse qui ne s'en va pas et dans laquelle on va pouvoir essayer de s'épanouir. Oui, c'est quelque chose qui traverse toute la littérature.
Les choses vues de Christophe André, c'est tous les mardis dans Grand Bien vous fasse. Une émission préparée par Alexia Rivière et Lorraine Bess avec l'aide de Clara Marliot et c'est réalisé par Jérôme Boulet.
Ali Rébéi sur France Inter.
C'est comme si c'était hier, comme si l'endroit faisait l'envers. Comme si les images s'arrêtaient et que les belles heures défilaient. C'est comme si c'était demain, comme si le soir venait le matin. Comme si la grande roue tournait et que l'horloge s'enrayait. Comme si c'était le moment, comme si l'après pointait l'avant. Comme si qui sera était et que la mécanique s'essoufflait. Le temps passe, on est vite, ne passons pas trop vite. Le temps passe, on est vite, ne passons pas trop vite. C'est comme si c'était fini, comme si la mémoire servait l'oubli. Comme si nos rêves sous nos pas et que le réveil ne sonnait pas. C'est comme si c'était toujours, comme si nos nuits étaient nos jours. Comme si le soleil roule des doigts et que les étoiles ne brillaient pas. Le temps passe, on l'évite, ne passons pas trop vite. Le temps passe, on l'évite, ne passons pas trop vite. Le temps passe, on l'évite, ne passons pas trop vite. Le temps passe. passons pas trop vite.
Les Dix Sœurs, composées par Gaëtan Roussel et Rachida Brakni, Le Temps Passe.
France Inter, grand bien vous fasse.
10h21 et on s'intéresse ce matin à ces adultes qui ne grandiront jamais. On les appelle des Peter Pan avec le sociologue Rémi Houdguiri, la psychologue clinicienne Sarah Chiche avec la complicité de Christophe André et de Julien Bisson. Bonjour Lila.
Bonjour Ali.
Fidèle auditrice, vous avez appelé vendredi dernier et le sujet du jour vous inspire. Vous êtes enseignante à l'hôpital.
Oui.
Alors est-ce que vous êtes restée une grande enfant, vous ?
Oui, complètement.
Comment ça
j'ai surtout trouvé une merveilleuse façon de ne jamais grandir puisque je vis et je travaille avec eux.
Comment ça se traduit le fait d'être une grande enfant dans votre vie quotidienne ?
Dans ma vie quotidienne, alors mon petit secret caché qui ne l'est pas vraiment, c'est mon addiction aux dessins animés et aux livres au magnifique album de littérature jeunesse.
Et pourquoi ? Qu'est-ce que vous trouvez dans le fait de regarder avec assiduité ces dessins animés ou...
De la douceur et de l'apaisement. Mmh. Des couleurs, je crois beaucoup de douceur et d'apaisement, ouais. C'est ça.
De l'apaisement par rapport à quoi, Lila ?
À tout ce qui est environnant. Mm-hmm. Tout le bruit, l'agitation, la pollution, toutes les pollutions des grandes villes, qu'elles soient sonores, psychologiques, relationnelles. C'est ma bulle de respiration, quoi. Mm-hmm. Et j'ai toujours trouvé ça très, très beau. Alors, je regarde pas n'importe quoi. Mm-hmm. J'essaye d'avoir quand même des choix de qualité. Mais,
Miyazaki, par exemple.
Par exemple, Miyazaki. Sur France 4, ils ont, pour ne pas faire de pub, mais les albums que vous devez connaître tous, Cacaboudin, Le Petit Lapin, mm-hmm. De Stéphanie Blake, mm-hmm. qui a été récemment mis en animation, Ernest et Célestine, mm-hmm. enfin, des magnifiques albums de jeunesse qui sont des vrais chefs-d'œuvre pour moi. Voilà.
Et nous avons autour de la table un bon spécialiste de la littérature de jeunesse, Julien Bisson, directeur du magazine Lire, sur ce que vient de nous dire Lila.
Oui, bien sûr, c'est vrai que tous ces albums jeunesse sont peut-être faits pour les directions des enfants, mais il y a énormément d'adultes qui aiment à s'y replonger régulièrement.
Vous, par exemple ?
Moi, par exemple.
Sarah Chiche.
Oui, je trouve que ce que Lila vient de dire est très important. Elle a dit « je vis et je travaille avec les enfants ». Et au fond, c'est ça qui est bien, c'est cette capacité de créativité. C'est-à-dire ça la travaille, l'enfance, donc elle travaille avec eux. Elle en fait quelque chose de cette part d'enfance qu'elle veut prolonger. Et au fond, ce petit secret de regarder les dessins animés, bon, n'a rien d'honteux tant que ça reste une part secrète qui est cloisonnée, qui est restreinte à un champ. C'est-à-dire quand ça envahit toute la vie entière, là, ça commence à poser problème.
Rémi Houdguiri.
Oui, ce qui est intéressant aussi, c'est, elle a parlé de dessins animés, on aurait pu parler également de bandes dessinées. Le phénomène frappant de notre époque, c'est qu'il y a encore quelques décennies, les bandes dessinées, c'était les enfants ou les adolescents. Mmh. Aujourd'hui, les adultes lisent les bandes dessinées, ils trouvent du plaisir et il n'y a plus du tout de tabou de ce point de vue-là.
Christophe André.
Oui, ce qu'il faut préciser, c'est que les bandes dessinées ont elles aussi beaucoup évolué. On est passé quand même de bandes dessinées très ouvertement destinées à l'enfance et à l'adolescence à des bandes dessinées avec des codes adultes, abordant des grandes œuvres de la littérature adulte, etc. Moi, j'aurais une question à poser à Lila. Lila, est-ce que vous avez des enfants vous-même ou pas encore ?
Non, pas encore. J'ai quelques difficultés à en avoir d'ailleurs.
Je suis désolé pour vous, pour ma question.
C'est un combat que partagent certainement beaucoup de femmes, mais voilà, je perds pas espoir et j'ai confiance en la médecine. Mais ce que je voulais rajouter, surtout en réfléchissant avant d'intervenir, c'est que j'ai eu moi-même une enfance un petit peu douloureuse, enfin de laquelle je garde des très bons moments, mais aussi des souffrances. Et j'ai choisi de travailler en pédopsie, en pédiatrie, donc exclusivement avec des enfants en souffrance. Et en réfléchissant, en essayant de penser un peu ce que je faisais, je me suis dit que je j'étais pas loin de ça, que j'avais trouvé un beau moyen de réparer, de faire revivre cet enfant que j'étais, parce que pour moi c'était essentiel. Et finalement, c'est un peu comme si tous les jours je me réparais moi et je me guidais vers quelque chose. Donc je suis assez je suis contente, je suis heureuse et je
suis sûr
plein, je vois les gens autour de moi et j'aimerais que tout le monde puisse dire que voilà, qu'ils aient trouvé dans leur métier une manière de remettre un peu toutes ces pièces de puzzle. Et intervenant disait tout à l'heure, le premier disait que c'était le champ des possibles. C'est exactement ça.
Ouais. Moi, je suis sûr en tout cas.
Ça me donne une énergie et incroyable en fait.
Je suis sûr, Lila, en tout cas, que vous faites super bien votre métier. Moi, en vous écoutant, une question me venait, que j'aimerais poser d'ailleurs aux autres invités et à Ali. Finalement, lorsqu'on a des enfants soi-même, c'est eux qui nous mettent dehors de notre propre enfance, d'une certaine façon. Ils nous y replongent parce qu'on va rejouer avec eux, relire les histoires, mais quand ils grandissent, ils nous rappellent qu'ils ne veulent plus qu'on reste nous-mêmes des enfants.
Oui, a priori, ça devrait être cela. Et c'est vrai que normalement, ça signe la fin de l'âge adulte. Mais justement, ce qui est assez frappant à notre époque, c'est que les adultes, tout en étant parents, veulent continuer à rester enfants, ce qui pose des problèmes de transmission, puisque comment on peut rester sérieux et transmettre des choses sérieuses si on est dans un mode de complicité et de communication avec ses propres enfants. C'est ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, et qui est parfois vécu de façon très compliquée, et parfois de façon harmonieuse.
Merci beaucoup Lila de nous avoir appelé de Paris. Alors Rémi Oudguiri, je rappelle que vous avez publié Ces adultes qui ne grandiront jamais. Les grands-enfants, ils apparaissent de façon significative et visible à partir des années 1960. Le futurologue américain Alvin Toffler en repère quelques spécimens dans son célèbre ouvrage Le choc du futur, paru en 1970. Il prévoit que des êtres hybrides allaient bientôt débarquer dans nos écoles, nos entreprises, nos administrations.
Oui, tout à fait. Ces êtres hybrides, c'est des êtres mi-enfants, mi-adultes, qui ne sont plus tellement dans la culture traditionnelle. Et Dan Kiley, le psychiatre qui a écrit ce fameux livre, Le syndrome de Peter Pan.
Dans les années 70.
Ou même début des années 80. Et dans la continuité de Toffler, remarque de plus en plus dans ses cabinets des adultes qui disent, je ne veux pas grandir, je veux rester dans mon monde enfantin, j'ai peur de l'avenir, j'ai peur de prendre des décisions, j'ai peur de m'engager. Et il constate qu'il y en a de plus en plus. Et donc, Toffler, qui les voyait dans les années 70, ben ils arrivent en masse dans les années 80.
Et il utilise, Dan Kiley, l'expression syndrome de Peter Pan. Sarah Chiche, on parle de syndrome. Le Larousse nous dit qu'un syndrome est l'ensemble de plusieurs symptômes en rapport avec une pathologie. C'est vraiment une pathologie, ce syndrome de Peter Pan ?
Oui, alors écoutez, Christophe André le confirmera sans doute. C'est en tout cas, on le retrouve pas dans les classifications psychiatriques, ce syndrome de Peter Pan. Mais il y a certains signes cliniques qu'on a pu identifier chez ces grands-enfants, notamment une grande immaturité affective. Ça peut être des gens extrêmement intelligents, très cérébraux, mais qui vont réagir de façon très explosive. C'est-à-dire, ça va pas être une petite joie, mais ça va être des grands débordements de joie. Ça va pas être une petite colère. On le voit sur les réseaux sociaux en ce moment, mais ça va être des explosions. La joie est toujours débordante, tout déborde sans arrêt, comme ça se passe avec les enfants.
Julien Bisson, rappelez-nous qui était ce personnage qui n'a pas été inventé par Walt Disney, rappelons-le.
Non, on écoutait tout à l'heure le petit son de Walt Disney qui donnait l'image de la légèreté, de la fantaisie. Or, si on revient au texte même de James Matthew Barry, on se rend compte que Peter Pan, derrière cette histoire, est quelque chose de beaucoup plus dramatique. Il est écrit il y a un peu plus de 100 ans, Peter Pan, et James Matthew Barry a écrit le livre notamment après la mort de son frère aîné qui est mort à 13 ans. Donc il y a déjà aussi cette idée d'un enfant qui est figé dans une enfance éternelle. Et quand on lit vraiment le texte de Peter Pan, on se rend compte que Peter Pan est un enfant qui est lui-même marqué par un traumatisme profond qui est l'abandon de sa mère, puisqu'il explique qu'un jour il est parti par la fenêtre rejoindre le pays imaginaire, il est revenu et il écrit ceci « Maman m'avait complètement oublié et un autre petit garçon dormait dans mon lit ». Donc cette histoire, c'est aussi symboliquement la rupture avec ce monde dont l'enfant est à la fois le centre et le héros. Donc il y a aussi cette idée que Peter Pan, c'est l'enfant qui se réfugie dans un monde imaginaire dont il reste le héros pour plutôt que d'accepter d'intégrer un monde dont il n'est pas le centre. C'est une enfance qui est glorifiée, le réel est rejeté et l'imaginaire, là, se trouve comme la seule vraie voie pour la liberté. C'est cette idée aussi, ce que Sarah Chiche rappelait, cette ombre qu'il a perdue. Et cette ombre, c'est sa part d'humanité qu'il a un peu oubliée.
Rémi Oudguiri.
Oui, et si ces Peter Pan apparaissent à partir des années 60, c'est que dans les années 60, la société commence à accélérer. Les changements s'accélèrent et ça commence à troubler les père de plein de gens qui ont du mal à suivre en fait. Et c'est à ce moment-là qu'on voit des adultes qui, voyant l'avenir avec frayeur, se réfugient dans l'enfance et essayent de ralentir le mouvement.
En filigrane, c'est une peur panique de la mort qui agite les Peter Pan, Sarah Chiche.
Je crois que c'est un évitement du deuil, ce que je disais en début d'émission, c'est-à-dire que mûrir, ça équivaut à mourir. Donc il y a une hantise de la finitude, et donc pour pas prendre le risque de mûrir et donc de mourir, on se réfugie dans un temps immobile, imaginaire, qu'on peut convoquer à loisir et où tout est possible.
Julien Bisson.
Ce qui est intéressant aussi dans l'histoire de Peter Pan, et je pense qu'il va se retrouver dans ce syndrome, c'est l'immaturité affective du personnage, et notamment dans sa relation aux femmes. Il y a deux femmes dans l'histoire de Peter Pan. Il y a la fée Clochette, qui elle-même a des sentiments pour Peter Pan, mais Peter Pan, lui, préfère Wendy, qui est la figure maternelle qui est sacralisée, et qui le renvoie à une enfance qu'il ne veut pas quitter.
Sarah Chiche.
Oui, il préfère Wendy, mais en même temps, il ne s'engage pas vraiment. Il y a aussi les sirènes, il y a aussi Lily la tigresse, donc... Et on le voit dans la clinique des Peter Pan contemporains, ce sont des hommes absolument charmants, absolument séducteurs et séduisants, mais qui n'arrivent pas à faire le choix d'une femme unique.
Alors Rémy Oudguiri, la typologie des grands-enfants est très variée. Des années 1960 à la fin des années 2010, on peut repérer trois grandes périodes. Commençons par les années 1960-70. Alors dans les années 1970, l'un des archétypes de ces adultes qui refusent de grandir, eh bien ce serait peut-être les personnages interprétés au cinéma par Pierre Richard. Qu'est-ce qui caractérise ce type de grand enfant, à la fois insouciant, distrait, innocent, décalé?
Oui, c'est le décalage. Pierre Richard, c'est un enfant dans un corps d'adulte et il est tout le temps en train de tomber. Il le dit lui-même, il bégaye avec les jambes. Donc c'est symptomatique de cette période où le monde accélère et puis vous avez des adultes qui n'ont pas envie d'accélérer, qui se sentent maladroits dans ce monde-là. Il y a Monsieur Hulot également un peu avant, il y a Antoine Doinel, etc. Enfin, toute cette flopée de personnages qu'on voit apparaître sont décalés, assez sympathiques, sont des sortes de Pierrot lunaire, c'est-à-dire le monde progresse à grands pas, la croissance économique, la technologie, etc. Et eux ont envie de garder une poésie, la poésie de l'enfance. Ça nous fait sourire, voire rire dans le cas de Pierre Richard.
Alors, ce qui caractérise aussi les grands-enfants des années 60-70, hein, vous l'avez dit, c'est Antoine Doinel, le personnage de Truffaut dans Les 400 coups, devenu adulte dans Domicile conjugal. Antoine Doinel, c'est le père de tous ces adolescents qui ont peur de s'engager. Adolescent, je le rappelle, c'est la contraction des mots adulte et adolescent. Parce que même marié, Antoine Doinel, il reste coincé dans l'âge des possibles. Hein. Marié, voilà. Il continue à se comporter comme un adolescent.
C'est l'éternel adolescent. Qu'il sorte du service militaire, qu'il commence à travailler, qu'il se marie, qu'il ait son premier enfant. À chaque fois, il reste avec ce côté très décalé que lui reprochent toujours les femmes. Les femmes sont toujours après lui en disant « mais tu ne veux pas t'engager, tu ne veux pas t'investir, etc. » C'est l'éternel adolescent. C'est vraiment le précurseur de toute la culture de notre époque, ce qu'on a appelé les tanguis ensuite, etc.
Et François Truffaut disait en 1960 qu'un homme se forme entre 7 et 16 ans. Après, il vivra toute sa vie ce qu'il aura acquis entre ces deux âges.
Truffaut était un grand nostalgique et fasciné par l'enfance.
Vous êtes d'accord avec ça, Sarah Chiche ? 7 saisons, c'est une période assez courte quand même. Hein,
pense que ça renvoie peut-être former. À l'histoire personnelle de François Truffaut. Je pense que les cartes, même quand on a tiré des cartes particulières dans la vie, ça n'est jamais joué. Après, il y a ce qu'on va faire des bonnes ou des mauvaises rencontres.
Alors Rémy Oudguiri, dans les années 70, apparaît la figure de l'adulte immature, incarné par Woody Allen dans Annie Hall ou Manhattan. À quoi reconnaît-on cet adulte immature qui ne prend pas sa vie en main ? Il a peur d'abord ?
Il a peur, il prend des pilules très souvent, il va chez le psy régulièrement, et surtout il va beaucoup au cinéma, les personnages de Woody Allen vont souvent au cinéma. Ce qui est frappant chez Woody Allen, ce sont des adultes, mais qui sont toujours des adolescents. Et c'est un cinéma d'adolescents sans adolescents, et donc ça nous fait rire, parce qu'il y a ce décalage permanent entre l'adulte qui est bien habillé, etc. Et puis en réalité, à l'intérieur, c'est un adolescent qui sait pas où il va, il n'arrive pas à guider sa vie.
Qui n'arrive pas à terminer ce qu'il commence. Chez les personnages immatures de Woody Allen dans ces années-là, les questions surgies dans l'adolescence continuent à se poser dans la maturité. Hein.
Oui, exactement. En fait, ce que dit Woody Allen dans beaucoup de ses films et même après, c'est au fond comment choisir. Il y a tellement de possibilités, comment je choisis. Et donc, il est effrayé à cette idée-là. Il est angoissé. Donc, c'est assez drôle, en réalité, dans ses films. Mais en même temps, certains de ces personnages choisissent. Et quand on choisit, c'est encore pire. Parce que on s'aperçoit qu'éventuellement, on s'est trompé. Comment savoir quand on a choisi qu'on ne s'est peut-être pas trompé? Et donc, son son cinéma bouillonne de ces contradictions qui sont typiques de l'immaturité, de l'adolescent qui n'arrive vraiment pas à devenir un adulte.
Allez, si vous êtes un éternel enfant ou un éternel adolescent qui n'arrive pas à grandir, eh bien n'hésitez pas à témoigner au 01 45 24 7000 par courriel grand bien vous fasse à radiofrance.com et sur notre page Facebook. She packed my bags last night, pre-flight. 0 hour, 9 a.m. And I'm gonna be high as a kite by then. I miss the earth so much. I miss my wife. It's lonely out in space on such a timeless flight. And I think it's gonna be a long, long time till touchdown brings me round again to find I'm not the man they think I am at home.
There's no one there to raise them. If you did, and all the science I don't understand, it's just my job.
Elton John en 1972, Rocketman, Elton John à qui l'on souhaite un prompt rétablissement. 1972, c'est le temps où vous dansiez en boîte, dans les boîtes toulousaines, Christophe André.
Exactement, hein, Elton John, hein. Je n'avais pas encore peur de vieillir ni de grandir.
À lire et bien, grand bien vous fasse.
sur France Inter.
10h41 et on s'intéresse ce matin à ces adultes qui ne grandiront jamais avec le sociologue Rémi Houdguéry, la psychologue clinicienne Sarah Chiche avec la complicité de Christophe André et de Julien Bisson du magazine Lire. Quelques mails, Guillaume de Grenoble qui nous dit « J'ai l'impression d'avoir du mal à grandir. J'ai 31 ans, je vois mes amis fonder une famille, acheter une maison et pour ma part, tout cela me semble abstrait comme des soucis de grands. Je suis locataire et je me complais dans cette situation qui, selon moi, m'offre une plus grande liberté de mouvement et d'action et je n'ai pas l'impression de manquer de maturité. Et puis, Nawel nous dit « Devenir adulte est très compliqué. Le plus dur, c'est de se confronter à ceux qui sont devenus trop adultes, trop sérieux, trop blasés de la vie. Ceux qui ne se battent plus, ce n'est pas l'enfance qui me retient, mais mon adolescence où la révolte, l'amour, l'amitié étaient purs et sincères, tout le contraire du monde des adultes. » Sarah Chiche.
Oui, je crois qu'à la fin de Peter Pan, en tout cas version Disney, on voit que le père de Wendy, qui est quelqu'un d'extrêmement psychorigide, qui pour le coup lui a oublié qu'il avait été enfant un jour, se souvient à nouveau, en voyant le vaisseau du pays imaginaire, que quelque chose de l'enfance a eu lieu. Et au fond, je crois qu'on arrive à composer avec notre vie d'adulte quand on comprend que notre vie de tous les jours, elle nous offre tout à fait la possibilité de passer d'un monde à l'autre, d'un temps à l'autre, dans la même journée. Au cours d'une même journée, on peut avoir 6 ans, 18 ans, 40 ans, 80 ans. Et pour ça, c'est pas la peine de vivre des choses extraordinaires. Il suffit tout simplement d'observer ce qui se passe autour de soi et de savoir faire surgir le rire en soi. Ça, c'est très important.
Et puis Marie-Laure, par courriel, nous dit « Rester dans l'enfance peut être un choix de facilité d'évitement. » Vous êtes d'accord avec ça, Rémi Houdguéry? Je rappelle que vous avez publié « Ces adultes qui ne grandiront jamais ».
Oui, ça peut être un... Pensons au personnage Tanguy, qui incarne un peu ça, c'est-à-dire le refus d'entrer dans le monde réel et prolonger la vie chez papa-maman le plus longtemps possible. Il y a une sorte de réticence, et cette réticence, à partir des années 90, elle commence à être de plus en plus importante.
Bonjour Lionel.
Bonjour.
Vous appelez d'Angers, vous avez 57 ans, et vous êtes encore un grand enfant.
Oui, alors je suis redevenu il y a une dizaine d'années... et le lien se fait, ça rejoint ce que une de vos intervenantes disait à l'instant, c'est apparu quand mon fils a eu 5-6 ans. Et moi, je me suis mis à je suis redevenu un cow-boy. Je suis redevenu un templier. À l'époque, je jouais avec des bouts de bois et du carton, mais... À mon âge, j'avais plus de moyens, donc j'ai transformé ça en jeu actif et j'ai fait partie d'associations de reconstitution historique, par exemple. Et donc je suis allé tout au bout du jeu. Et ensuite, j'ai partagé ça avec mon fils. Comme ça, dans le western, je me suis même mis à faire du cheval, je me suis mis à faire du tir en club de tir à la poudre noire avec les armes de l'époque. Et tout ça, ça m'a replongé dans une enfance que j'avais malheureusement oubliée, mais qui, grâce à mon fils, a ressurgi joyeusement.
Rémi Houdguéry.
Oui, il y a peut-être presque un côté nostalgique dans tout ça. C'est-à-dire que le retour à l'enfance, quand on retombe à l'enfance très souvent aujourd'hui, c'est aussi parce que on a du mal à vivre au présent et on a du mal à se projeter dans l'avenir. Donc en fait, on revient en enfance parce que c'est là où au fond tout était familier, tout était harmonieux et tout était magique en fait. C'est retrouver de la magie que ne produit plus le monde contemporain.
Merci beaucoup Lionel de nous avoir appelés.
Bref, à partir du jour où mon père a quitté ma mère, il a tout fait pour être jeune. Il mettait des slims, des baskets, et même des slims avec des baskets. Il faisait comme s'il aimait des groupes dont il n'arrivait pas à prononcer le nom.
T'as entendu le dernier Black Eyed Peas? Et force William.
Il s'était créé un compte Facebook, avait ajouté mes copines en amis et les draguait dans Farmville. Il avait un iPad qu'il utilisait à 1% de ses capacités.
T'as vu, il y a un chronomètre dessus?
Il essayait d'utiliser des expressions de jeunes, mais il n'y arrivait pas.
Oh, c'est trop de la boule ça.
Un jour, je lui ai demandé un service, il m'a dit qu'il avait un truc plus important à faire, ça pue le mensonge. À tous les coups, il allait voir une meuf. Du coup, j'ai regardé dans l'historique, il avait réservé une chambre d'hôtel pour deux en plein après-midi, ça m'a énervé. Je l'ai attendu. Il est arrivé, je suis allé le voir. J'ai dit:
c'est ça ton truc important?
Mais qu'est-ce que tu fous là toi?
On s'est engueulé. À un moment, j'ai dit:
quitter maman pour des petites jeunes qui en veulent qu'à ton argent.
Il a dit:
mais ça n'a rien à voir avec le fric.
Le réceptionniste a dit:
votre chambre habituelle, monsieur?
Bref, mon père veut être jeune.
Un extrait de la série humoristique Bref de Kian Konjandi. Rémi Houdguéry, confusion des âges entre un père et un fils consterné par l'attitude paternelle.
Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a une confusion des âges aujourd'hui, mais parce que là on essaye de paraître jeune, non pas d'être jeune nécessairement, mais c'est du paraître.
Sarah Chiche.
C'est quelque chose d'assez classique. Quand on a des enfants, et ben du coup, on regrette tellement l'enfance que, au fond, soi-même, on n'a pas connue, qu'on s'autorise, adulte, à vivre comme on n'a pas vécu enfant. Et c'est comme ça qu'il y a des confusions des genres et des générations, des adultes qui redeviennent enfants, et du coup, des enfants qui sont obligés de devenir adultes beaucoup plus tôt pour épauler leurs parents.
Alors, quand on est un adulte qui refuse de grandir, on a souvent envie de faire l'idiot, de faire ce qui nous passe par la tête, libérer la part d'enfance qui étouffe en faisant n'importe quoi, Rémy Houdguiry.
Oui, ça c'est le cas extrême, évidemment.
L'envie de renouer avec une part sauvage, primitive.
Oui. Alors il y a Lars von Trier, le cinéaste danois, qui dans les années 90 a exploré ce thème, notamment avec un film culte, Les Idiots, où on est face à une bande de jeunes danois de la bonne société et qui essaye de, enfin qui se rassemble dans une maison de la banlieue et qui essaye de retrouver vraiment la sauvagerie en eux. C'est même pas l'homme naturel bon de Rousseau, c'est même un cran plus loin, aller jusqu'à la sauvagerie, aller jusqu'à la brutalité. Tout casser pour retrouver l'innocence et pour cette bande de jeunes, l'idée c'est que la société danoise de l'époque est une société qui atrophie les individus, qui les étouffe, qui ne leur promet que de la consommation et de la technologie, et eux ont envie de retrouver le brut en l'homme, l'enfant en l'homme, l'enfant sauvage.
C'est dans ces années-là, je crois, qu'il y a une émission qui s'appelle Jacasse, où il y a des adultes qui
Oui, tout à fait.
Il y a des défis un peu idiots. Hein, Sarah Chiche, hein, ça vous parle, c'est ça, Jacasse?
Oui, ça me parle beaucoup.
C'était sur MTV.
Oui, et il était spécifié, je crois, au début de l'émission. Attention, ne reproduisez pas ces gags, parce que dans Jacasse, c'était vraiment une question de vie ou de mort. Hein, c'est-à-dire, les gens allaient se scratcher contre des murs, mettre leur vie en jeu, sauf que c'était pour jouer, pour de rire. Et dans la vie, c'est pas forcément comme ça que ça se passe.
Rémy Houdguiry, à quoi ressemble le grand enfant à partir des années 2000? C'est un adulte qui fuit la réalité, un monde chaotique et indéchiffrable. Et c'est d'ailleurs dans les années 2000 qu'apparaît le mot « adolescent ».
Oui, dans les années 2000, ce qui se produit déjà, c'est que ce qu'on voyait plutôt dans au cinéma, par exemple, à la télévision, etc., on le voit dans la vraie vie de plus en plus. Et je dirais que, alors, il y a plein, dans mon livre, je montre tous les domaines où on retrouve ce grand enfant, mais je dirais que celui qui est le plus frappant, parce que c'est le plus visible, c'est évidemment l'empire du jeu, le jeu vidéo. Parce qu'aujourd'hui, ce qui est assez frappant, alors, prenez le métro, vous apercevez qu'on joue de 7 à 77 ans, c'est le syndrome de Candy Crush, si on peut dire. Et donc, le jeu s'est emparé de beaucoup de gens. L'âge moyen des joueurs de jeux vidéo aujourd'hui, c'est 45 ans. Donc, on n'est plus du tout dans la caricature de l'adolescent qui joue au jeu dans sa chambre. Et surtout, dans cette folie du jeu, rappelez-vous les scènes de l'été dernier avec les adultes, les enfants, les adolescents qui, dans les jardins, un peu partout en France, cherchaient des Pokémon. Dans le jeu, il y a une forme de magie, d'évasion, d'échappatoire. Et c'est aussi un symptôme d'une société qui a du mal à prendre des responsabilités, qui préfère jouer et faire diversion.
Sarah Chiche.
Oui,
vous jouez au Pokémon?
Ah non, j'ai jamais joué au Pokémon, je suis pas nécessairement. Mais j'ai d'autres jeux, je vous rassure.
Vous me direz ça hors antenne.
Voilà, c'est mon petit secret, ma part secrète. Dans le jeu, il y a une suspension temporaire de la réalité et de tout ce qui nous entoure. Quand on observe des enfants jouer dans une cour de récréation, ils jouent pas à être un lion, ils deviennent un lion le temps du jeu. Ils s'autorisent à être autre chose que ce qu'ils sont.
Julien Bisson, l'un des livres cultes des adolescents, de ces adultes qui refusent de grandir, c'est L'Attrape-cœur de Salinger, paru en 1951.
Oui, L'Attrape-cœur.
Et qui met en scène
Holden Caulfield, qui a 16 ans. Et oui, c'est en effet l'un des personnages préférés de tous ces adultes qui ne veulent pas grandir, qui sont tous un peu des enfants ou des frères de cœur de Holden Caulfield. On parlait tout à l'heure des drames qui ont présidé à la naissance de Peter Pan. Dans L'Attrape-cœur, il y a aussi un drame, puisque Holden est lui aussi marqué par la mort de son frère Ali, qui le renvoie à ce moment-là aussi à une enfance éternelle et à une peur maladive du changement. Et il y a quelque chose de très fort chez Holden Caulfield, c'est qu'il adore les musées. Il va dans les musées parce qu'il sait que dans les musées, rien ne change, tout est toujours exactement pareil. Il dit ceci, il y a des choses qui devraient rester comme elles sont, faudrait pouvoir les plonger dans une de ces grandes vitrines et plus y toucher. Je sais que c'est impossible, mais bon, c'est bien dommage. Holden Caulfield, c'est quelqu'un qui, un peu comme nous tous, joue à être adulte. C'est quelqu'un qui prend les codes de la vie adulte. Il fume, il boit, il va voir des filles, mais mais au fond, il en rejette totalement l'hypocrisie de ce monde adulte. Et il souffre de voir sa jeunesse le fuir, et ça va jusque dans ce titre, L'attrape-cœur, puisque l'attrape-cœur renvoie à ce fantasme qu'il a d'un champ de seigle, où les enfants marchent dans un champ de seigle, il y a une falaise, et les enfants vont se précipiter et tomber de la falaise, et lui, il veut essayer de les attraper, il veut être cet attrape-cœur qui les sauve, et qui les sauve de cette chute dans le monde adulte.
L'attrape-cœur disponible en poche chez Pavillon, dans la belle traduction d'Annie Saumon. Être un grand enfant, c'est attendre Rémy Houdguéry, une attente qui peut durer toute une vie. Oui. Dans Vernon Subutex, Virginie Despentes nous dit qu'il y a deux mi-temps pour un grand enfant.
Oui, la première mi-temps, c'est la mi-temps où le corps répond à l'esprit, et donc on est dans la joie, dans le jeu, dans le divertissement. Et puis effectivement, la deuxième mi-temps de la vie, comment préserver cette joie, cette jouvence, etc., alors que le corps commence à décliner. C'est tout l'ambiguïté des grands enfants, arriver à vieillir tout en conservant son âme d'enfant. C'est vraiment un enjeu vraiment important.
Sarah Chiche.
Oui, je crois qu'il y a toujours de toute façon un prix à payer. C'est que quand on est enfant, on a un corps juvénile et très fort, mais on n'a pas nécessairement les moyens de réaliser ses rêves. Et arrivé à l'âge adulte, on a peut-être davantage de moyens, mais physiquement, on ne suit pas forcément.
Un dernier message sur Facebook. Bonjour, j'ai 35 ans, je suis papa de 3 enfants et je me suis fait souvent poser la question de savoir si je ne deviendrai pas définitivement un adulte le jour où je perdrai mes parents. La perte de ces repères ne nous propulse-t-elle pas directement à l'âge adulte, Sarah Chiche?
Je crois que c'est plus compliqué que ça. Par exemple, dans le cas de l'auteur de Peter Pan ou de l'attrape-cœur, ce sont des gens qui ont été confrontés à la perte très jeunes.
Rémy Houdguéry.
Oui, je voudrais juste dire que finalement, derrière les grands enfants, il y a le phénomène de gens qui cherchent désespérément l'éternité. Et ils cherchent désespérément à arrêter le temps. C'est le grand fantasme de notre époque.
Christophe André.
Oui, c'est un très beau sujet. On aurait presque pu poser la question à l'envers. C'est-à-dire, ce qui est frappant, et Julien Bisson l'évoquait à propos de l'attrape-cœur, c'est que quand vous demandez aux gens, est-ce que parfois vous avez l'impression de faire semblant d'être adulte, alors qu'au fond de vous, vous êtes un enfant, c'est une expérience universelle. Tous les humains ont ce sentiment tout au long de leur vie, au moins par moment.
Merci beaucoup Rémy Houdguéry. Je recommande vivement votre ouvrage, Ces adultes qui ne grandiront jamais, chez Arquet. Merci Sarah Chiche d'être venue ce matin. À suivre l'intervention de Marie-Laure Zonshine, de Femme Actuelle.
France Inter, grand bien vous fasse, Ali Rébéi. Something in my heart is gone. Something that was mine all along. So in the silence of the night, my hopes get to sight. I see love. Though it keeps me going on, keeps me going on.
Going on, and if you don't feel the same, why won't you?
Juvenile s'interpréter Someone Better. Rebonjour Marie-Laure Zonshine.
Rebonjour Ali.
Chef des actualités de Femmes Actuelles. Alors ce matin, vous vous intéressez à toutes ces entreprises qui incitent leurs salariés à s'engager bénévolement.
Absolument. Il faut savoir que depuis 2001 et la loi dite RSE, Responsabilité Sociale et Environnementale, les entreprises sont tenues d'intégrer les enjeux du développement durable sur une base volontaire de leurs salariés. Alors plus largement, on assiste effectivement à un développement de tout type d'actions menées en entreprise sur la base donc du volontariat, du bénévolat, pour souder les équipes. Il ne faut pas oublier qu'il y a quand même un enjeu pour les entreprises derrière, valoriser la générosité, puis il faut bien penser que ça crée du lien social à l'extérieur, mais aussi ça garantit une certaine forme de paix sociale à l'intérieur, ça va de soi.
Il est vraiment désintéressé cet altruisme, ce bénévolat en entreprise ?
Disons désintéressé, c'est ce que je vous disais à l'instant. C'est vrai que c'est une manière aussi de souder les équipes. Alors vous avez toute la direction aux côtés du réceptionniste, en passant par le DRH et le comptable. On est tous ensemble, on va sur un chantier, on donne un coup de main à une association, on se retrousse les manches. Vous verrez d'ailleurs souvent, quand il y a comme ça des actions collectives menées par les entreprises, tout le monde porte un superbe t-shirt floqué au nom de l'entreprise.
Vous faites ça, Femmes Actuelles ?
Alors nous, ce qu'on fait, mais je suis sûre que vous le faites aussi dans la maison, c'est la forme la plus simple. Oui, en même temps, elle existe. C'est par exemple de donner des biens personnels, des collectes en entreprise. C'est très simple à faire. C'est effectivement le moyen le plus simple pour chacun de s'investir, où vous déposez des livres, des biens personnels que vous n'utilisez plus et qui seront remis à des associations. Donc vous avez l'impression, effectivement, d'œuvrer, de faire quelque chose de manière très simple. Il y a une autre façon très simple d'agir pour qui ne veut pas se retrousser les manches et aller sur un chantier dans une association. C'est ce qu'on appelle la générosité embarquée. C'est ce qu'on appelle aussi l'arrondi solidaire, c'est-à-dire que sur votre fiche de paye, vous demandez à votre employeur de prélever directement quelques centimes, quelques euros qui seront reversés directement à l'association de votre choix, l'entreprise s'en charge et le reverse, ou tout simplement lorsque vous faites des courses, que ce soit de manière physique en boutique ou sur internet, voilà, vous achetez un livre, vous allez dans une grande maison pour acheter un bouquin, 15,99 € et les 99 centimes vont être versés, avec votre accord bien entendu, à une association. Voilà, donc pour vous c'est indolore, mais vous faites un geste.
Et ce bénévolat se traduit notamment par la possibilité d'offrir des jours à un collègue dont l'enfant est gravement malade.
Absolument, ça c'est en place depuis 2014, donc c'est une loi qui permet de donner des RTT à des collègues pour rester au chevet de leur enfant malade ou de leur conjoint malade. Donc effectivement, cette forme d'altruisme généreux, cette contagion du bien, nous dit un des experts, finalement je fais du bien aux autres en m'en faisant à moi-même, se développe, et d'ailleurs 78% des salariés souhaitent s'impliquer aux côtés de leur entreprise pour des actions d'intérêt général.
Merci beaucoup Marie-Laure Zonshine, c'est-à-dire cette semaine dans Femmes Actuelles. En tout cas, Femmes Actuelles s'est fait remarquer pendant cette campagne présidentielle avec l'interview de Marine Le Pen qui taclait sa nièce Marion Maréchal Le Pen, et c'était vous qui avez mené cette interview.
Voilà, vous l'avez dit.
Demain dans Grand Bien Vous Fasse, on se demande comment survivre quand on est un parent débordé. Et vous, comment faites-vous pour vous organiser entre l'école, les courses, les cours de foot ou de musique, la vie affective, les amis, la famille ? Grand Bien Vous Fasse à radiofrance.com et dès 9h au standard 01 45 24 7000 à la technique ce matin, Lucas Vaillant et Kevin Pelot.